Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, l'étranger exaucé.
Passage dans notre Bible, dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 8, si vous voulez bien vous donner la peine de tourner quelques pages de votre Bible, et puis après nous reviendrons dans le Nouveau Testament. Alors on commence par le livre des rois, chapitre 8, verset 41, et nous allons nous inspirer, nous allons prendre, notre réflexion à partir d'une prière que le grand roi Salomon avait fait monter un jour vers Dieu, lorsque, après avoir construit le temple du même nom, le temple de Salomon, il a demandé la bénédiction sur tous les hommes. Et à travers le verset 41, donc Livre des Rois, chapitre 8, verset 41, voilà ce que nous lisons. Et nous allons commenter un peu ce texte à l'aide d'une rencontre que nous allons faire après dans le Nouveau Testament. Alors voilà ce que je porte devant vous. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Voilà, une belle prière qui certainement s'est révélée exaucée des milliers, voire peut-être même dans toute l'histoire, des millions de fois. Alors, on sait très bien que la Bible nous parle d'un peuple. Un peuple élu, un peuple choisi, c'est Israël. Mais déjà avant les temps de l'Évangile, Dieu avait aussi tout un programme pour ceux qui n'étaient pas finalement de la race d'Abraham, la race d'Israël, les Juifs. Et nous voyons que le salut, l'universalité du salut a commencé bien avant même l'apparition de Jésus qui lui a véritablement, démocratiser, excusez-moi l'expression, mais est répandu le salut pour tous les hommes. Alors, nous avons justement cette belle prière faite par ce grand roi d'Israël, certainement un des plus grands, dans un temple qu'il venait de construire, un temple magnifique, fastueux, qui a été, le domicile de Dieu sur terre. Dieu avait élu domicile dans le temple que Salomon avait édifié. Alors, je vais reprendre quelques éléments de cette prière et puis nous allons voir comment ça s'est réalisé pour un homme beaucoup plus tard, dans l'histoire évangélique. Et voilà la substance, voilà les mots qui sont employés dans cette prière. Et Salomon disait à Dieu, quand l'étranger qui n'est pas du peuple d'Israël, parce qu'il y avait toutes sortes de nations, et vous savez qu'il y avait un fort préjugé contre les étrangers, parce que l'étranger, peut-être encore comme nous aujourd'hui, c'est toujours étrange. Oui, parce qu'il ne parle pas la même langue, il n'est peut-être pas quelquefois de la même couleur de peau que nous, sa religion, ses coutumes, ses us, etc., etc., fait que ses vêtements, sa manière d'être, quelquefois nous interpelle. Parce qu'on se dit, mais ce sont des gens comme nous. Alors, souvent, on a donné une connotation, on a souvent porter un préjugé défavorable sur les étrangers, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Mais quand nous, nous allons à l'étranger, eh bien, nous devenons des gens étranges. Souvent avec des langues barbares, hein, en employant une expression biblique, un langage qui est complètement incompréhensible. Alors, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu est le créateur de tous les hommes. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose ce soir, c'est qu'il n'est pas seulement le Dieu créateur de tous les hommes, mais il est le sauveur de tous les hommes. Ça, c'est une autre dimension. Et souvent, le monde religieux, et peut-être parfois même le monde chrétien, a été souvent un petit peu rébarbatif à accepter cette notion, et ne pensant qu'il n'y a que nous qui détenons la vérité et le salut, parce que bien, c'est comme ça, c'est... Voilà. C'est ainsi. Vous savez que les Juifs, c'est vraiment ce qu'ils pensaient. Hein. Ils étaient véritablement marqués par une certaine forme de doute sur les autres, hein, et voire même de rejet. Eux aussi, malheureusement, dans l'histoire, ont eu à souffrir finalement du racisme. Et ça continue encore aujourd'hui, de la xénophobie et puis tout le reste. Alors la prière était celle-ci, quand l'étranger viendra d'un pays lointain, c'est forcé parce que nos voisins sont des demi-étrangers, on les connaît un petit peu. Alors, il viendra à cause de ton nom. Il ne viendra pas pour faire du tourisme, il viendra pour Dieu. Il montera à Jérusalem pour te rencontrer dans le temple que j'ai édifié à ton honneur, à l'honneur et à la gloire de ton nom. C'est la prière de Salomon que je suis en train de paraphraser. Car on saura que ton nom est grand. Et c'est pour cela que les étrangers viendront à Jérusalem, parce que ton nom est grand. Parce que tu as fait des grandes choses, parce qu'on parlera de toi, eh bien, sous différentes latitudes. Alors, parce que ton nom est grand, parce que ta main est forte, tu es le Dieu Tout-Puissant, on le sait et on le saura, et ton bras est tendu, quand il viendra prier dans cette maison, pas ailleurs, ici, dans ce lieu, alors, Salomon disait, exauce-le des cieux. Voilà. En quelque sorte, Salomon se faisait, eh bien là, le médiateur. Il se faisait, en quelque sorte, l'ambassadeur pour l'étranger ou les étrangers. Et il viendra justement plaider devant Dieu en disant, mais il a fait ce chemin. Il est venu dans notre ville, il est venu dans notre pays, il est venu en Israël, il est rentré dans cette maison. Alors, Seigneur, exauce-le comme tu exauces, eh bien, tous tes enfants d'Israël, du lieu de ta demeure, c'est-à-dire du ciel, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Donc il n'y a pas de différence. Pour Dieu, confirmation est donnée qu'il n'est pas seulement créateur, mais qu'il est aussi le sauveur, le rédempteur, qui entend la prière de la foi de tous les hommes, afin que tous les peuples, parce qu'il va retourner dans son pays. Il est étranger, il ne va pas rester. Il passe. Il retournera un jour ou l'autre, quelle que soit la durée de son séjour, eh bien, ici, mais, et il repartira avec quelque chose, parce qu'on ne peut pas, et je pense que Salomon pouvait véritablement le comprendre comme ça et le demander dans ce sens à Dieu, on ne peut pas monter à Jérusalem, on ne peut pas venir en Israël, on ne peut pas rentrer dans cette maison qui est la maison de Dieu sans avoir reçu quelque chose et repartir avec un véritable trésor, si ce n'est le salut. Alors, afin que tous les peuples de la terre, lorsqu'il retournera dans son pays, connaissent ton nom pour te craindre, pour observer tes commandements, pour savoir que tu es le seul vrai Dieu. Parce que quand il va retourner là d'où il vient, ce n'est pas un Dieu, mais ce sont des dizaines et des centaines de dieux que ces peuples étranges, leur religion est aussi étrange qu'eux-mêmes, ce sont des étrangers naturellement, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils sachent, qu'ils connaissent et qu'ils sachent que ton nom est invoqué dans cette maison. Et c'est ici dans ce lieu à Jérusalem, dans le temple, que véritablement les peuples de la terre te rencontreront. Alors on sait que les temps passaient, et puis un jour Jésus a rencontré une demi-étrangère, elle s'appelle, figurez-vous, la Samaritaine. Elle a un mélange entre les Juifs et puis les Samaritains, et elle posera cette question à Jésus. Mais où faut-il adorer? Et Jésus lui dira avec beaucoup de compassion, parce que c'est une ignorante, c'est une étrangère, elle est étrange à la vie vraiment profonde d'Israël et de sa religion d'Israël, du judaïsme. Alors il lui dira, mais moi je te dis que ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sur cette montagne où vous, les Samaritains, vous apportez vos dévotions et votre adoration à vos dieux. Je vous dis que les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Alors vous pouvez l'adorer n'importe où. Et aujourd'hui, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de païens, il n'y a plus de ceci ou de cela. Tous les hommes peuvent véritablement se tourner vers Dieu, ouvrir leur cœur à Dieu, et Dieu va les exaucer. Alors, ceci dit, nous allons, c'était un préambule, mais nous allons ouvrir un autre passage qui est intéressant parce que vous me le direz, mais c'est la réalisation, quelque part, eh bien, de cette belle prière qui s'est avérée exaucée. Alors, je vous invite à lire le livre des Actes, au chapitre 8 et au verset 26. Et je voudrais étayer ce que nous avons dit, déjà dans notre première partie. Alors, ça commence par quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce déjà les prémices de l'exaucement de cette prière de foi de Salomon, près de 1000 ans auparavant, et qui se trouve donc au moment de l'édification, de la naissance de ce que l'on appelle communément l'Église première, l'Église primitive, l'Église chrétienne. Alors, Actes, chapitre 8, verset 26. Écoutez bien. « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, qui est un évangéliste, lui dit, lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem, on en a parlé il y a un instant, à Gaza. Gaza, c'est le pays des Philistins. Celui qui est désert. Alors il s'est levé et il est parti. Et voici un Éthiopien, un Eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. C'était un homme élevé en dignité et qui avait sa place auprès de la reine d'Éthiopie, des rois d'Éthiopie. Ce n'était pas n'importe qui. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit lui dit, ou dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Et dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'Eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'Eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà. Alors nous avons tous compris que lorsque nous relions ce premier paragraphe que j'ai commenté brièvement tout à l'heure et que nous en arrivons maintenant, eh bien à cette période, nous pourrions dire apostolique, le livre des Actes, c'est le livre d'histoire du Nouveau Testament, le livre d'histoire des chrétiens. Et nous voyons que on peut dire, à juste titre, que cette prière, bien il y a des siècles, eh bien, a été réalisée à travers ce cas. Mais je l'ai dit tout à l'heure et je le rappelle, certainement des milliers et des milliers de fois et encore aujourd'hui. Il nous est parlé d'une visitation angélique, un ange du Seigneur. Alors je voudrais simplement en substance vous dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors je ne veux pas faire tout un commentaire sur le ministère des anges, mais je crois que Dieu parle comme il l'entend. Et dans cette situation dans laquelle nous allons donner quelques mots, eh bien je crois que c'est marqué très fortement par une intervention de l'Esprit de Dieu à travers eh bien, cette manifestation céleste. Et nous voyons que C'est un ange qui parle à Philippe. Je ne sais pas si Philippe a été conscient que c'était un ange, mais le texte nous dit que c'est un ange. Et il lui a dit ceci, tu te lèves et tu vas du côté du midi, c'est-à-dire que si vous prenez la position de Jérusalem, c'est en descendant naturellement, hein, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Ça fait, c'est pas très 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 éloigné, à travers les montagnes de Judée, enfin les dernières parties des montagnes de Judée, enfin des monts de Judée, et il est bien précisé celui qui est désert. Philippe a dû être interpellé en disant, mais qu'est-ce que je vais faire? On me demande, finalement, de partir, alors qu'à ce moment-là, si vous lisez le début du chapitre 8, il nous est parlé qu'il y avait un véritable réveil où des centaines et des centaines de gens étaient en train de découvrir Jésus et se faisaient baptiser. Et là, voilà qu'il reçoit un contre-ordre venant du ciel en disant, toute affaire cessante, tu laisses tout ton travail, la charge était immense, et tu vas aller maintenant sur ce chemin, et je te préviens, il est désert. Donc s'il rencontre quelqu'un, ça sera le bon, hein, puisque là, il ne va pas pouvoir se tromper, puisque ce n'est pas des milliers de personnes qu'il va rencontrer, il va en laisser derrière lui des centaines et des milliers, mais il n'a pas de précision. Il n'a pas un ordre de mission précis en disant « tu vas faire ceci, tu vas faire cela ». Et vous savez la caractéristique finalement des hommes de foi qui savent obéir? Eh bien c'est précisément, comme il nous est dit, de se lever, de partir. Et là il n'y a qu'une intuition spirituelle qui nous puisse faire nous faire agir comme ça. Parce que si je me fie simplement au raisonnement humain qui est le nôtre, on se dit « mais qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi Dieu, dans une période où il y a tant de travail, tant d'âmes à sauver, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des délivrances ?» Il aurait pu se dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, Philippe est un homme de l'esprit. Et il se lève, et il part. Et voici, que c'est très, très intéressant, les petits mots qui apparaissent comme ça, en fin, ou en début, ou en milieu de phrase. Et voici, comme s'il y avait quelque chose, oui, j'allais le dire, de miraculeux. Et voici. Ça, c'est le style de la manière dont l'Évangile est écrit pour... Eh bien, interpeller le lecteur ou l'auditeur que nous sommes. Et voici un Éthiopien. Alors, un Éthiopien, ce n'est pas un juif. Il n'est pas blanc, il est noir. C'est un homme qui vient de très loin, des fins fonds dans la corne de l'Afrique. Et nous voyons que, qui plus est, c'est un eunuque. C'est un homme qui finalement, eh bien, est sans descendance et qui n'aura jamais de descendance. Il nous est même dit dans le livre du prophète Ésaïe, que Dieu sauverait les eunuques, même s'ils disent « je suis un arbre sec ». Vous comprenez ce que ça veut dire? Que Dieu est venu justement donner sa grâce à tous ceux qui peut-être étaient naturellement ou peut-être accidentellement défavorisés par la vie et la nature. Oui, Dieu a compassion de ceux qui ont des manques, de ceux qui sont stériles, de ceux qui sont peut-être sur le bord de la route et qui disent « mais moi, il n'y a pas d'espoir pour moi ». Alors, Éthiopien, un eunuque. Ah, il a une bonne situation. Il est ministre. Mais ceci, finalement, eh bien, n'est pas une compensation pour tout le reste qui pouvait être le drame de sa vie. Et il est ministre, donc, de cette grande reine qui s'appelle Candace, c'est plutôt un titre générique comme pharaon en Égypte, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. On pourrait dire qu'il était ministre des Finances, ministre du Budget, ministre de l'Économie. C'est pas mal, hein ? On pourrait le présenter de cette manière aujourd'hui. Un homme, en tous les cas, qui était près des rois. Un homme qui était un conseiller. Et ça compte, hein, la finance et l'économie dans un royaume. Et voilà que cet homme nous rapporte le texte, tout simplement, qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait fait venir aujourd'hui, aller à Jérusalem ou aller à Pékin ou à Sydney ou à New York, c'est pas une grosse affaire. Hein. On prend l'avion et puis c'est bien, hein, ça va vite. Mais à l'époque, hein, imaginez-vous que cet homme qui avait quand même des moyens, c'était pas un pauvre, hein, un homme, imaginez-vous qu'il part là de cette Éthiopie lointaine, avec, il n'est pas venu tout seul, hein, il est venu certainement avec une caravane, sur des chameaux, et avec tout le faste qui devait accompagner sa situation et son état. Peut-être était-il une vingtaine, une cinquantaine, peut-être même une centaine. Il était le principal personnage. Et on peut voir un peu ce cortège, hein, un bigarré chamarré, là, qui traverse des immensités de sable. Et il était venu avec des trésors, probablement. Mais il était venu à Jérusalem pour adorer. Voilà. Il n'avait pas eu peur, en tous les cas, de laisser sa position de ministre, hein, et de partir, parce que ça représentait certainement des semaines, voire des mois d'absence. Et vous savez, quand on a une place dans les palais royaux, quelquefois, il vaut mieux rester là, parce que vous avez toujours des gens mal intentionnés qui se disent « il est parti », et vous connaissez le proverbe, « qui va à la chasse ?» Perd sa place. Mais lui, il n'était pas parti à la chasse, il était parti adorer. Hein, et c'est vrai, parce que les révolutions de palais, c'est très fréquent. Hein. Alors, voilà. Mais il avait probablement demandé l'autorisation à la reine d'Éthiopie de dire « eh bien voilà, moi, j'ai quelque chose au fond du cœur, je voudrais aller dans cette ville pour adorer. » Alors ça va peut-être être le prémisse. Une autre visite qui viendra plus tard, vous connaissez l'histoire de ce cortège royal qui était venu dans la maison de Dieu, dans le temple, la maison de la forêt du Liban, palais de Salomon. Elle s'appelait la reine de Saba. Et elle venait justement de cette, on pourrait dire aujourd'hui, de cette Arabie heureuse. C'est ce que l'on appelle, hein, les historiens l'appellent comme ça. Et nous voyons que cet homme est venu pour adorer. Pourquoi est-il venu pour adorer? C'est la question. Et le texte nous dit que adorer Dieu, hein, adorer le Dieu d'Israël, on s'entend bien. Et voilà qu'après un séjour dans la ville sainte, il s'en retournait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. Il ne regardait pas les journaux du temps, hein, et peut-être les cours de bourse, je ne sais pas, mais toujours est-il que lui, il était venu à Jérusalem, et il y avait un livre qu'il tenait dans ses mains. Et c'était ce livre, probablement, on peut le deviner, on peut le penser, qu'il s'était procuré à Jérusalem. Alors, en fait, le livre, c'était un parchemin, hein, et il lisait ce livre, et visiblement, il avait du mal à le comprendre et à le lire. Et voilà que nous voyons cet homme qui s'en retourne. Lui aussi est sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza pour ensuite bien rejoindre l'Éthiopie. Voilà, donc on sait que, on le devine en tous les cas, qu'il va y avoir probablement une rencontre entre cet homme, toute sa troupe, et puis Philippe qui est tout seul. On nous a dit que le chemin était désert, il n'est plus désert, déjà on peut le comprendre. Dieu est en train de peupler les chemins déserts de ceux qui espèrent en lui. Et dans nos vies, c'est pareil. Ouais. Quelquefois, on dit c'est désert, mais ce n'est pas désert, c'est que nous ne voyons pas les choses que Dieu voit. Il va bientôt nous ouvrir les yeux. L'Esprit dit à Philippe. Alors, tout à l'heure, c'était un ange. Maintenant, c'est l'Esprit. On a bien compris que c'est l'Esprit de Dieu. Dieu parle aux hommes qui s'attendent à lui. Dieu parle aux hommes de foi, à ceux qui s'attendent. Et Dieu va parler. Il va lui dire, tout à nouveau, avance. Tout à l'heure, c'était lève-toi. Maintenant, c'est avance. Et approche-toi de ce char. Je suppose que, quand on lit le texte, Philippe avait certainement vu ce cortège au loin. Et il avait dû s'étonner en disant, mais tiens, c'est pas si désert qu'on me l'a dit. Mais quand vous voyez que vous n'êtes pas autorisé ou que vous ne savez pas, on reste sur le chemin et on ne s'occupe pas forcément des voisins, à moins qu'il y ait une nécessité de secours ou d'aide. Alors, il a besoin justement que Dieu lui dise « Maintenant, tu vas avancer et tu vas t'approcher de ce char qui vient vers toi. » Alors, Philippe a accouru. Il est vraiment très obéissant, hein, parce qu'il se lève, il part et il accourt. Il est prompt à obéir. Il a la foi. Et il entendit à ce moment-là, s'approchant, lui, Philippe, s'approchant du cortège du char, il a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il avait bien du mal à lire en hébreu. Hein. C'était un étranger. Et pour lui, ce livre et tout le reste, ça devait être très étrange. C'est comme ça. Hein. Et il a eu l'audace. Parce qu'il faut quand même avoir cette audace, mais c'est une audace de Dieu, parce qu'à la clé de tout cela, il va y avoir le salut d'une âme. poussé par l'Esprit, inspiré par l'Esprit, qui bannit notre timidité. Quelquefois, lorsque nous sommes tellement par nature timorés en disant « mais j'ose pas si je fais quelque chose qui ne va pas », et comment va-t-on me répondre ? Et en ce qui concerne Philippe, hein, il a osé lui dire cette parole que je ne me permettrai pas de dire aux gens que je rencontre dans le métro ou dans le bus, hein, quand ils sont en train de lire le journal, « comprends-tu ce que tu lis ?» C'est quand même assez déplacé, c'est quand même assez osé. Alors, il peut y avoir favorablement une réponse, mais je risque de prendre le journal à travers la tête. « De quoi vous occupez-vous, monsieur ?» Bon. Et lui, il le fait. « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et voilà que la réponse, elle est formidable, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. Il répondit, l'eunuque répondit, parce que on sent que c'est un homme qui a besoin d'aide, il a besoin de secours, il a besoin d'être quelque part, eh bien, porté, entraîné, conduit dans sa recherche, parce qu'il était venu quand même pour rechercher Dieu et adorer à Jérusalem, il repartait avec une formidable révélation qui est la prophétie divine du prophète Ésaïe, mais lui manquant pour quelque chose. Vous savez, on grandit chemin faisant, hein, on n'a pas tout de suite, il faut persévérer. Et cet homme retourne dans son pays, il a pourtant les éléments, il a été voir le temple, il a adoré Dieu avec les lumières qui étaient les siennes, pour un commencement à tout. Maintenant, il se trouve avec un livre qui révèle finalement la pensée et la volonté de Dieu, mais il sent au fond de son cœur, en lisant que c'est difficile pour lui. Et quand c'est difficile pour nous, Dieu met toujours un ami ou une amie, quelqu'un qui va nous rencontrer pour nous aider. Ça a été notre expérience à nous, à chacun. Il y a bien eu quelqu'un qui nous a parlé du Seigneur en premier, qui nous a tendu peut-être la main en nous donnant une Bible. Des gens qui nous ont expliqué certaines choses. Eh bien, c'est ce qui se passe. Alors, cet homme lui dit, mais comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Eh bien, ça, c'est formidable parce que ça veut dire, viens, aide-moi, tout simplement. J'ai besoin de toi. Peut-être que tu connais mieux que moi. Toi, tu es juif. Je discerne que tu dois être israélite. Tu dois bien connaître tout cela. Alors, il lui demande, et avec toute la courtoisie, et imaginez-vous que Philippe, lui, un homme simple du pays de Judée ou du pays d'Israël, s'était jamais trouvé assis dans un char royal. Si un jour vous avez une limousine qui s'arrête devant vous, montez dedans. Si la personne vous demande, tout simplement, eh bien, explique-moi ce que c'est la Bible. Hein. Qu'est-ce que tu crois ? Alors, il invite à Philippe à monter à s'asseoir avec lui, et voici. Le passage de l'Écriture qu'il lisait, que l'eunuque lisait, était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » Alors, quand on lit ça, il y a d'abord deux catégories. Il y a le juif qui lit ça, qui connaît, qui peut le répéter par cœur, beaucoup mieux que je ne l'ai fait, parce que moi, il a fallu que je le lise, parce que je ne me souviens pas de tous les mots. Mais le juif, lui, le sait. C'est imprégné, complètement. Mais il le sait, mais quand ça s'est réalisé, il a tué cette prophétie. Il a été véritablement l'auteur de cette réjection, de ce Messie qui avait été envoyé par Dieu. Et puis il y a tous ceux qui, en toute modestie, il faut le dire, ceux qui, comme Philippe, sont éclairés par l'Esprit de Dieu, se laissent conduire, comprennent que la parole de Dieu, eh bien, nous avons besoin d'une aide supérieure pour la comprendre, d'une révélation, d'une illumination. Voilà. Et quand on lit cela, on comprend bien qu'il s'agit de Jésus. On comprend bien qu'il s'agit du sacrifice de Jésus, qu'il s'agit de l'expiation de Jésus sur la croix à Jérusalem pour le salut, non pas seulement des Juifs, mais du monde entier, des étrangers aussi. Voilà. Et il va lui expliquer. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Je voudrais souligner quelque chose avant d'aller plus loin. C'est la découverte graduelle de la vérité, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a eu probablement dans l'histoire des hommes devenus chrétiens qui se sont convertis à Jésus-Christ, hein, qui ont eu la révélation transcendante, d'un seul coup, comme ça. c'était une illumination immédiate. Mais beaucoup plus fréquemment, ça s'est vérifié à travers l'histoire et puis les témoignages, que notre approche, notre découverte de Dieu est souvent un chemin, une route que nous suivons. Et nous allons d'étape en étape. Que nos yeux, à ce moment-là, s'ouvrent. Les écailles qui sont sur, qui nous empêchent de voir clairement, eh bien, tombent les unes après les autres. Notre cœur, finalement, va s'illuminer au fur et à mesure. La parole est là pour nous nourrir. Les expériences, nos prières, enfin, toutes sortes de choses. Et je voudrais vous dire que, pour cet homme, comme pour bien d'autres, sa découverte de la vérité, du salut, ce pourquoi il était venu adorer à Jérusalem, va être graduel. Cet homme est passé dans une première étape, une étape naturelle. Sa religion d'origine et avec ses coutumes. Ça devait être en Éthiopie des coutumes et une religion païenne. Ça ne pouvait pas être autrement. Tout le paganisme était là. Donc, c'était un païen. Ensuite, il a fait la découverte en venant à Jérusalem de ce que pouvait être la foi en un Dieu unique, ce qu'on appelle le judaïsme. Et il a découvert Moïse. Parce que bon, en Israël, tout est imprégné de la pensée, de la loi de Moïse. Il était venu donc à Jérusalem pour adorer. Il a découvert à ce moment-là que sa religion d'origine, sa religion païenne, n'avait plus rien à voir avec la révélation qu'il avait trouvée à Jérusalem. Et là, il a découvert quelque chose, puisque je vous ai dit Moïse, il a découvert la loi de Dieu. C'est important. Il a découvert donc les principes de la loi. Dieu a parlé, Dieu a donné des commandements aux hommes pour que véritablement ils le craignent et ils puissent véritablement recevoir cette bénédiction par l'obéissance. C'est la loi. Et puis voilà que, ça va très vite après, hein. En retournant dans son pays, il a déjà plus sa religion naturelle. Il vient de dire, il vient de penser peut-être lui-même, voilà la religion dont il a besoin, c'est le judaïsme. C'est la loi de Dieu. Et sur le chemin, quelques temps après, il va découvrir ce que nous connaissons bien, le christianisme. Ouais, ça fait beaucoup de isme, mais c'est pourtant une réalité. Il va découvrir le plein évangile, et le plein évangile nous révèle une chose qui est supérieure à tout le reste, toutes nos religions naturelles, toute la religion d'Israël. Et quelque chose qui va beaucoup plus loin, le plein évangile, c'est la découverte de la foi qui sauve. Et ça, c'est autre chose. Étape par étape. C'est le salut. Parce que, autant dans les propositions légales de la loi en Israël, c'était « si tu obéis, tu vivras. Si tu mets en pratique cette parole, tu vivras. » Et nous savons qu'avec le Nouveau Testament, c'est pour ça qu'il y en a un nouveau, qui a remplacé l'ancien, je dis bien remplacé. Et à ce moment-là, eh bien, ce n'est plus le mérite de l'homme, ce n'est plus les efforts de l'homme, ce n'est plus tout simplement eh bien, tout ce qu'il peut déployer en disant « Seigneur, je veux te plaire ». Il y a quelqu'un qui a rempli cette exigence pour plaire à Dieu, c'est Jésus-Christ en mourant à notre place. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire que Jésus, véritablement, est notre substitut. Et à ce moment-là, la seule chose que Dieu réclame, ce n'est plus tant l'obéissance légaliste et de la loi, c'est tout simplement la foi. Je suis sauvé parce que je crois que quelqu'un a payé à ma place. La foi qui l'a amené à la situation dans laquelle il est. Ces deux hommes, Philippe et l'eunuque, étaient préparés par Dieu. Ils étaient préparés par Dieu parce que je dirais que le premier, c'est-à-dire Philippe, Dieu venait de lui demander surnaturellement quelque chose. Et là, il y a eu une ouverture, une compréhension de l'esprit. Et c'est toujours sur le même registre que nous sommes, parce qu'il a fait la démonstration de la souplesse et de l'obéissance qui repose sur la foi. Eh bien, Dieu s'est servi de Philippe pour aller rencontrer cet homme qui était à la recherche, lui aussi, de la dimension du salut par la foi. Et puis l'eunuque, parce que c'est en lisant la parole de Dieu dans son char, en retournant dans son pays, parce que c'est quand même l'Écriture qui donne l'intelligence de la foi et la compréhension de la volonté de Dieu. Ce que je dirais en faisant une petite nuance, c'est qu'on peut bien connaître la loi de Dieu, mais si elle est comprise selon la lettre, elle ne sert de rien. Si elle est comprise dans l'esprit, elle nous donne la vraie vie. C'est ce qu'il venait de découvrir. C'est ce qu'il venait tout simplement de découvrir. Je continue. Alors Philippe, ouvrant la bouche, puisqu'il a posé la question, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il ne lui a pas parlé de Moïse. Il ne lui a pas parlé d'autre chose. Il lui a parlé de Jésus. Vous savez, les gens, pour être sauvés, n'ont besoin d'entendre que un seul nom. Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au par moi, nul ne vient au Père que par moi. » Et il avait bien compris, Philippe, hein, que ce que cet homme avait besoin de trouver avant de retourner dans son pays, après avoir passé dans le temple, c'était de connaître Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Alors, c'est souligné, hein, de l'eau. Voilà. Et vous savez ce que l'on fait avec de l'eau, on fait tout, hein, c'est la vie, l'eau, quoi qu'il en soit. Et le nuque lui a dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Sous-entendu que quand il a annoncé Jésus, il lui a dit que, entre autres, il y avait des principes qui nous amènent et qui confirment le salut. C'est d'abord la repentance des péchés, d'une. La deuxième chose, c'est la conversion, non pas à une religion. Ce ne sera pas le judaïsme, ce ne sera pas ceci ou cela, c'est se convertir à Jésus. Donc, deuxième point, et il y avait aussi un élément qui est très important, qui est lié à la conversion, c'est l'obéissance. À travers cette exigence qui nous est donnée dans les enseignements qui nous sont donnés dans l'Évangile, quand Jésus dira à ses disciples, « Allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Le baptême. On va bientôt en parler, dimanche, dans 2 jours, on va avoir un baptême. Et c'est quelque chose, c'est un événement extraordinaire et formidable parce que c'est une fête. La Bible le résume de cette manière, c'est une fête. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, vous voyez, tout est lié. Alors, je suppose que Philippe lui avait dit, mais si tu veux aller plus loin, avant de retourner dans ton pays, eh bien, il faut que tu sois baptisé. Et l'histoire du baptême, c'est pas un baptême d'enfant, hein, c'est un adulte, hein, l'eunuque, vous avez bien remarqué. Hein. Et on s'aperçoit que c'est un principe, hein, qui est le principe spirituellement, c'est le symbole. Lorsque la personne est plongée, je dis bien plongée parce que le mot grec baptême c'est baptisein, donc plongée. Ça ne serait rien d'avoir un mot qui ne voudrait pas dire qui n'aurait pas sa signification profonde. Donc c'est quand vous prenez quelqu'un, vous le plongez dans l'eau, c'est-à-dire qu'il est submergé, il est immergé. Alors c'est tout simplement le symbole de la mort, il est enseveli. Et quand il se relève, parce qu'il se relève à chaque fois, hein, je voudrais quand même vous le dire, et quand il se relève, c'est l'image de la résurrection. C'est ça le sens du baptême. Vous le trouvez, si vous voulez, vous ferez une petite étude biblique ce soir avant de vous endormir, vous le trouverez tout simplement eh bien, dans l'Épître aux Romains. Voilà. Alors il a posé la question, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Cet homme était prêt à tout. Il ne discute pas. Il n'est pas en train d'ergoter en disant, mais je n'ai pas assez de théologie, je ne connais pas ceci et cela. Non. C'est son cœur, ce que vous savez. Hein. C'est ça ce qui est important, c'est notre cœur. Alors Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Qu'est-ce que c'est simple ? Est-ce que nous voulons croire de tout notre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Amen. Eh bien, tout le monde peut être sauvé. Le monde entier, s'il le dit, il peut être sauvé. Mais attendez, hein, c'est pas de dire. C'est de dire. Hein. Parce que des baptêmes, par procuration, des baptêmes superficiels, il peut y en avoir. Mais cet homme était vraiment converti. Ouais. Ce qu'il demandait, il le voulait. Alors, Philippe lui dit, mais si tu crois, de tout ton cœur, cela est possible. C'est pas si tu le peux, si tu fais l'effort d'eux. Non, c'est si tu le crois. C'est toujours la même base. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et c'est une grâce de Dieu, ça ne vient pas de vous. C'est formidable. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelle confession ! C'est très, très sommaire peut-être, mais il avait tout compris. Ce n'était pas sa religion qui pouvait le sauver. Ce n'était pas le judaïsme qu'il venait de découvrir l'avant-veille, mais c'était véritablement la foi en Jésus, le Fils de Dieu. Et ça, c'est la confirmation de l'Esprit. Comment vous l'expliquez ça ? Ce n'est pas de la théologie. Ce n'est pas quelque chose que nous avons appris. Bien sûr, ça passe par, eh bien là, notre intelligence, dans la compréhension. Mais c'est notre cœur. notre cœur et l'intelligence qu'il y a dans le cœur, et le Saint-Esprit qui vient sceller tout ça. Alors il a dit, et Philippe a fait arrêter le char, Philippe et l'Eunuque sont descendus tous les deux dans l'eau. Alors imaginez-vous, ce n'était pas une coquille Saint-Jacques. Ça aurait peut-être été un peu juste pour deux personnes, hein? Non, mais... Ils sont descendus tous deux dans l'eau. Il devait y avoir suffisamment d'eau pour pouvoir immerger une personne. Et là, il y en avait deux. Et Philippe baptisa l'Eunuque. C'est pas qu'il a pris de l'eau pour lui mettre sur la tête, c'est qu'il a pris l'Eunuque, il l'a renversé dans l'eau, parce que ça s'est toujours fait comme ça, dans l'histoire biblique, si vous lisez la Bible, et vous pouvez l'étudier, vous verrez dans l'Évangile, c'est comme ça que ça se passe. Les gens sont pris, ils sont immergés, ils sont relevés, et ils sont baptisés. Alors quand ils ressortent tout mouillés, ça c'est clair. Il a baptisé l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur a enlevé Philippe. Alors là, ça a été quelque chose d'assez étonnant, parce que tout ce message, tout ce paragraphe est imprégné de miraculeux, vous avez remarqué. Et pourtant, ça semble tout simple. Quand c'est dit comme c'est dit ce soir, ça semble tout simple, c'est une histoire. Mais il y a quelque part une forte teneur de la présence de Dieu dans tout cela. Et le nu n'a plus vu Philippe. Il ne l'a plus revu. Il était à côté de lui, et ça a dû lui confirmer que là où il avait véritablement mis sa confiance, c'était bien dans ce Dieu Tout-Puissant, qui est un Dieu miraculeux et un Dieu qui, finalement, eh bien, dispose du surnaturel. Et cet homme, quand il a vu qu'il n'y avait plus personne autour de lui, sinon ses soldats et ses accompagnateurs, il a dû dire, mais j'ai vécu une histoire extraordinaire. Il a dû se dire, mais je rêve ou quoi? Mais il ne rêvait pas, c'était la réalité. Et vous savez, quand on devient chrétien, on ne rêve pas. On n'est pas des rêveurs. Nous sommes avant tout des réalistes. Mais nous croyons néanmoins que Dieu est le Dieu Tout-Puissant qui sauve les hommes, qui est capable de faire des choses extraordinaires, merveilleuses. Et je termine. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa vie, sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il y a un petit mot qui m'interpelle pour terminer. Cet homme ne voyait plus Philippe, qui était celui qu'il avait rencontré, qui lui avait donné finalement la grâce du salut, enfin lui avait donné la possibilité d'accepter la grâce du salut de Dieu. Et il ne s'est pas dit, mais il va falloir que je passe au commissariat parce qu'il a disparu. Il faut que je signale sa disparition, vous vous rendez compte? Non. Il avait bien compris qu'il y avait une dimension qui était tout autre. Et il nous a dit qu'il poursuivit sa route tout joyeux. Moi, je voudrais quand même signaler quelque chose. Quand on est chrétien, malgré les problèmes que l'on peut avoir, malgré les disparitions, nos pertes, malgré tout ce quoi nous sommes peut-être attachés ou nous avons été attachés, malgré toutes les afflictions qui peuvent survenir dans notre existence, un chrétien, il a une raison extraordinaire et formidable de demeurer joyeux. C'est tout simplement l'assurance de son salut et de savoir que Dieu est avec lui. Trop souvent, le christianisme a été décrié à cause de sa tristesse et de son aspect opaque, sombre, et souvent avec quelque chose qui repousse les gens. Vous savez, je pense que quand on connaît la grâce de Dieu, eh bien on ne peut pas faire autrement. Malgré tout ce que je vous ai dit de difficultés et d'afflictions, on ne peut pas faire autrement que de se réjouir d'être sauvé. Et là, cet homme est bien parti, il était heureux. Et ça, cette joie, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui vient des circonstances et des événements extérieurs. C'est quelque chose qui est dans notre cœur. Il est parti joyeux, il a poursuivi sa route. Eh bien, c'est ça ce que nous avons besoin. Nos expériences spirituelles, eh bien, il faut continuer à vivre et à poursuivre notre route dans la joie. On n'a pas tous les jours envie de rire. On n'a pas envie toujours de plaisanter. Mais néanmoins, nous avons quelque chose au fond de notre cœur. Seigneur, donne-nous aux uns et aux autres, par le Saint-Esprit, l'inspiration d'un cantique ou d'un petit cœur qui nous amène, même dans la tristesse, eh bien, à élever notre voix et en te bénissant pour ta grâce et ton salut. Ça, c'est extraordinaire. Et puis Philippe, Lui qui avait laissé des foules et des foules auparavant pour venir courir après un homme, mais il n'a pas été déçu. Cet homme s'est converti, et il s'est bien converti. Il nous a dit qu'en partant, il était tellement remonté qu'il avait évangélisé tous les villages par lesquels il est passé. C'est formidable, ça c'est le dynamisme. Eh bien, nous avons besoin de garder cette joie. Et si nous sommes remplis de la joie du Saint-Esprit, remplis de la joie de Dieu, eh bien, nous serons capables de dire aux autres que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et nous-mêmes, où en sommes-nous ? Ouais, où en sommes-nous ? Peut-être qu'il y a des étapes encore à franchir. Vous avez vu, cet homme, sa religion naturelle, ensuite le judaïsme, et puis après le christianisme. Eh bien, peut-être que nous avons besoin, et Dieu nous interpelle, où tu en es ? Où en es-tu ? Est-ce que tu veux aller plus loin ? Est-ce que tu veux véritablement marcher avec moi ? Est-ce que tu veux encore, peut-être, prendre la décision de t'engager pour moi ? Parce qu'il s'est engagé, hein, quand il est descendu dans les eaux du baptême. Et est-ce que tu veux véritablement garder cette joie pour témoigner autour de toi que finalement appartenir à Jésus, être chrétien, c'est un bonheur. Que Dieu nous bénisse maintenant. Que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce qu'il y a de belles histoires. Et c'est vrai, Seigneur, tu nous apprends encore une fois de plus que même si nous nous sentons des étrangers, ni si nous sommes regardés comme des gens étranges, eh bien une chose que nous savons, c'est que dans ta bonté, dans ta fidélité, Seigneur, tu es venu chercher tous les hommes qui te cherchent, tous les hommes qui ont faim, tous les hommes qui ont soif, tous les hommes, Seigneur, qui là, eh bien, comme ce eunuque, est monté un jour, certainement de sa propre initiative, à Jérusalem, pour aller adorer dans le temple. Alors c'est vrai que ce sont des étapes. Et quelquefois, nous avons nos manières à nous de nous approcher de toi, avec les lumières que nous avons, avec les rudiments, Seigneur, de la connaissance qui est la nôtre. Mais Seigneur, à un moment donné, lorsque tu vois un homme ou une femme, un jeune homme, une jeune fille, avec un cœur sincère, avec un cœur désireux, Seigneur, de véritablement, eh bien, vivre pour Dieu, servir Dieu, aimer Dieu, prier Dieu, adorer Dieu, eh bien, tu nous conduis toujours un peu plus loin, tu nous conduis toujours vers le but. Et nous t'en bénissons, Seigneur. Je te demande de nous visiter, Seigneur, de nous bénir à cette parole, et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, nous allions véritablement, Seigneur, joyeux sur la route que tu nous as tracée, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions être les témoins dans notre pays. Nous ne serons peut-être plus des étrangers parce que c'est notre pays, notre région, notre ville, notre village, notre famille. Ce n'est pas toujours facile. Et bien là, à ce moment-là, nous dirons combien notre Dieu est grand, combien Jésus est le sauveur de nos âmes, que Jésus nous ouvre le ciel et qu'il nous a donné à travers sa vie crucifiée à la croix. Et bien, Seigneur, véritablement la délivrance de nos péchés, le pardon de nos péchés et la promesse de la vie éternelle. Et Seigneur, c'est avec joie que nous te bénissons ce soir, parce que c'est au fond de notre cœur. Bénis, bénis abondamment, Seigneur, ceux et celles qui recevront cette parole, non pas la parole d'une église, non pas la parole d'une communauté, ni la parole d'un homme, fût-il pasteur ou autre, mais la parole de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen.